Bonjour, à nouveau bienvenue sur Radio B, les bonnes ondes et sur 90 FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver, amis auditeurs, pour une nouvelle saison des Chroniques du passé. Bonjour à vous Rémi.
Bonjour Martine, bonjour à tous. Quel est le sujet pour débuter ce nouveau cycle ?
Allons nous promener dans la ville de Bourg un dimanche pour avoir tout le loisir de lever les yeux sur des monuments intéressants.
Nous nous retrouvons à pied d'œuvre dans un instant après avoir écouté quelques notes de Bach.
Nous sommes donc à Bourg, dans le square Joubert, en face de la préfecture.
Avec à nos côtés une statue. Qui est-elle ?
C'est une paysanne, une sarcleuse, qui regarde l'heure au soleil. Elle est une œuvre du sculpteur Alphonse Muscat, que nous allons rencontrer plusieurs fois au cours de notre parcours. Elle lève les yeux, et bien comme nous allons le faire.
Regardons d'abord la préfecture.
À l'origine, elle était située en bas de la ville, près de l'actuelle mairie. Un nouveau bâtiment est élevé sur le haut de la ville, au-delà de ce qui est alors la Porte de Lyon en 1858. Mais un incendie endommage cet édifice en 1885. On le restaure et l'on modifie le fronton en le surélevant.
Et aujourd'hui, l'horloge centrale est encadrée par deux statues.
Statues créées par le sculpteur lorrain Paul Aubé, alors âgé de 48 ans. Deux personnages assis représentent l'un la Bresse, l'autre le Bugey. À gauche, une femme pour la Bresse, coiffée d'une couronne d'épis de blé, et elle a une gerbe de blé à ses côtés. Elle appuie sa main droite sur le manche d'une serpe. À droite, le Bugey, un homme coiffé de feuilles de vigne. Dans sa main droite, il tient une houe pour piocher la vigne, et de sa main gauche, une grappe de raisin. Ils sont face à face, mais seule la femme regarde son voisin.
Tournons maintenant la tête vers l'ouest, vers le bâtiment à l'arrière des arbres.
C'est l'hôtel de la Chambre de commerce et de l'industrie, édifié au début des années 1930. Pour cela, on a démoli la maison Montaplan, qui, avant la Révolution, abritait la manufacture royale d'horlogerie. Nos auditeurs peuvent en retrouver l'historique sur le site des Chroniques de Bresse.
Cet hôtel consulaire est l'œuvre d'un homme.
Ou plutôt né de la volonté du président Joseph Bernier, très actif durant la Première Guerre mondiale. Il est alors le propriétaire du Moulin Saint-Pierre, un moulin non hydraulique à Bourg. Joseph Bernier a mis ses compétences et ses relations au service du comité de ravitaillement et de l'office des céréales. Pour pallier le manque de monnaie, avec la chambre de commerce de Mâcon, il a créé ce que l'on appelait la monnaie de nécessité, de petites coupures en des billets et des pièces de monnaie, le tout sous l'égide de la Banque de France.
Et c'est l'excédent dégagé au moment de la liquidation de cette monnaie que la chambre de commerce et d'industrie a pu engager une opération immobilière.
Oui, mais nous n'avons pas tous les détails. Mais après le concours entre 13 projets, elle choisit, en 1928, les architectes lyonnais Antonin Chomel et Pierre Verrier, qui précédemment ont réalisé l'immeuble de la Chambre de commerce de Lyon.
Il propose un édifice dans le style de l'époque, néoclassique avec quelques touches art déco. Avant d'évoquer la décoration, parlons de son inauguration.
Le président Bernier n'est plus là. Il est décédé en juin 1933 à Césaria. C'est son successeur, Émile Couibe, qui préside l'inauguration le 4 juin 1934 en présence des autorités départementales et régionales.
C'est bien dommage que Joseph Bernier ne soit pas là.
Déjà, pour lui-même et pour la connaissance de la décoration réalisée par Yvonne Quibe, la fille du président alors en exercice. Son œuvre n'est évoquée dans aucun discours. On sait qu'elle est née à Genève et qu'elle y a exposé occasionnellement. Ses bas-reliefs burgiens, en façade, sont néanmoins intéressants par leur facture et la représentation qu'ils donnent du département. Je crois d'ailleurs, Rémi, que vous les appréciez beaucoup.
Eh oui, Martine. Celui le plus au sud représente manifestement la Bresse.
Avec, bien sûr, la volaille et le bétail. Au premier plan, derrière la frise des volailles, une mue, un objet oublié aujourd'hui. C'est une cage ajourée où les fermières mettaient la poule pour éviter que celle-ci n'emmène trop loin sa couvée. Dans la pratique, la poule y était enfermée, mais ses poussins pouvaient la rejoindre et gambader autour de cette cage.
Derrière, un paysan conduit un attelage de bœufs dans un champ labouré. En arrière et devant l'horizon collinaire, un pont est présent. Quel est-il ?
Bien difficile à dire, tant il est indéfini. Est-ce le pont de Saint-Laurent-sur-Saône qui relie l'Ain et la Saône-et-Loire, dont les chambres de commerce ont beaucoup œuvré ensemble durant la Première Guerre? Ou est-ce le viaduc de Cisbolozon qui relie par le chemin de fer la Bresse et le Bugey en franchissant la rivière d'Ain? Voir le pont de Neuville-sur-Ain, le premier pont en dur qui franchit la même rivière sur l'importante route de Lyon à Genève.
Nous optons pour quelle représentation ?
Nous choisissons Cisbolozon, d'autant plus que la Chambre de commerce et d'industrie se préoccupe beaucoup du transport ferroviaire, le moteur de l'économie et du développement touristique. Les montagnes qui ferment l'horizon seraient non pas celles du Mâconnais, mais celles du Bugey.
Qui est évoqué dans le bas-relief suivant, par des activités de bûcheronnage.
Un homme s'accorde une pause en fumant la pipe, garnie, pourquoi pas, du tabac produit par le bas-bugey. Derrière lui sont figurés des fûts de résineux et des bûcherons, la représentation de la principale économie du bugey, la production du bois. L'homme du premier plan a posé sa hache entre ses jambes. Yvonne Quibe a signé au-dessous de ce bas-relief.
Nous nous décalons sur la façade nord pour découvrir le troisième bas-relief.
Pour d'autres aspects du département, le tourisme et l'émergence des forces électriques par l'hydraulique. Le barrage du Pougny-Chancy, proche de la frontière suisse, est déjà en service comme celui de Cise, qui sera visité le lendemain de l'inauguration. Ces barrages sont évoqués par un générateur et des pylônes électriques. Là, l'artiste Yvonne Quibe représente les Pertes du Rhône, près de Bellegarde, un lieu à visiter par les touristes, et en arrière-plan le fort de l'Écluse. Le fort de Fort-l'Écluse, pardon. Le Rhône qui défile entre les rochers sera bientôt submergé par les eaux du futur barrage de Génicia, le grand projet alors à l'étude.
Nous terminons par la plaque commémorative qui indique que la Chambre de commerce et d'industrie a été créé par un décret du président de la République le 17 janvier 1899. À côté, sur la façade, sont représentés les blasons des principales cités du département.
Avant de quitter cet immeuble, il faut signaler que le sol du hall d'entrée est illustré d'une mosaïque représentant le bâton de Mercure, le dieu du commerce. Il y a aussi un médaillon représentant Joseph Bernier, une œuvre d'Alphonse Muscat. Ce hall d'entrée a été conçu pour exposer et mettre en avant les produits de l'Ain.
Maintenant, rejoignons l'avenue Alsace-Lorraine pour nous diriger vers le centre-ville.
Sur la gauche, nous délaissons volontairement la maison natale de Jérôme Lalande et son médaillon, et le temple protestant décrit lors des journées du patrimoine.
Nous nous arrêtons au soir, Jérôme Lalande.
L'astronome burgien, né en 1732, mort en 1807. Un éminent scientifique qui a participé, à 19 ans, au calcul de la distance de la Terre à la Lune. Il avait aussi une maison à Caesarea et nous l'évoquerons encore le mois prochain. Là, nous sommes sur l'ancienne place de l'Orme, l'arbre victime du froid terrible de l'hiver 1709.
Après la percée de l'avenue Alsace-Lorraine, la ville a beaucoup hésité sur l'aménagement du terrain vague laissé ici. C'est aussi là que Bourque a connu sa première séance cinématographique en 1896 avec les frères Lumière.
On a pensé y bâtir un marché couvert, vendre le terrain pour y construire des immeubles. Mais nous sommes à la belle époque, avec des préoccupations hygiénistes défendues par le docteur Émile Hudelet. L'espace est maintenu libre pour aérer le centre-ville et la ville étudie alors l'aménagement du square avec un bassin et son jet d'eau.
Et un monument à la gloire de son illustre astronome Jérôme Lalande.
Il sera financé par une souscription publique. Un concours est lancé pour le monument et c'est le projet d'Alphonse Muscat qui est retenu. Le portrait en bronze de Jérôme Lalande surmonte une stèle.
Décoré d'une allégorie à l'astronomie.
Où une nymphe retire un voile sur une nuit étoilée pour l'observation des astres. Ou qui ouvre le voile pour de nouvelles connaissances grâce à l'étude scientifique. De part et d'autre de la stèle, l'artiste a représenté de jeunes garçons qui se livrent à l'étude. Et pour nous, en ce début septembre, c'est un petit clin d'œil à la rentrée scolaire.
Sur le bas de l'avenue, nous jetons un regard sur le palais du vêtement avec ses mosaïques art déco. Nous continuons vers la rue Notre-Dame pour admirer la flèche de l'église Notre-Dame.
Elle est contemporaine de l'église de Brou et son clocher a été abattu lors de la Révolution. C'est grâce à un legs qu'il a pu être reconstruit dans les années 1909-1911. Le dôme a été élevé en béton armé. Une technique novatrice pour l'époque. Et on a demandé à Alphonse Muscat de créer un décor pour entourer l'horloge.
Quel a été le choix du sculpteur ?
Il choisit de placer de part et d'autre de l'entourage de l'horloge deux allégories pour symboliser le jour et la nuit. À gauche, le jour. Un homme a les yeux ouverts et tient une torche allumée. À droite, la nuit. Une femme ferme les yeux et tire le voile de l'obscurité. Certains voient les symboles de la naissance et de la mort. Placés à une telle distance, on n'imagine pas que ces sculptures ont plus de 4 mètres de hauteur. Elles sont d'une facture assez classique, mais elles forment un bel ornement dans ce clocher élégamment élancé.
Redescendons de notre clocher.
Eh oui, pour clore notre chronique. Merci Jimmy à la technique. Continuons à prendre rendez-vous avec vous, les auditeurs de Radio B. On vous dit rendez-vous le mois prochain sur 90 FM. Au revoir à tous.
Au revoir.